Bonjour et bienvenue. Non, ce n'est pas mardi, mais bien mercredi 24 janvier 2018. Hélène Denis, heureuse de vous retrouver. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, hier, on a eu un congé. C'était pas prévu, mais la pluie verglaçante nous a invités à rester chez nous.
Et c'était fort sage comme décision.
Vraiment, parce que c'était extrêmement périlleux toute la journée.
Absolument.
Il y en avait de la glace. Et il y en a encore ce matin. Là. Il faut être prudent sur les routes, surtout les petites routes, puis sur les trottoirs.
Absolument. Je rentabilise beaucoup mon acquisition de crampons par les temps qui courent.
Est-ce que ça marche vraiment? J'ai toujours peur que ça ne soit pas assez adhérent.
Ben, il existe, pour faire une parenthèse rapide, il y a plusieurs types de crampons. Il y a ceux avec les pics, mais ceux que j'ai, c'est des spirales. Donc, ça fonctionne bien dans la glace. Ça fonctionne bien lorsqu'on se retrouve sur le pavé et qu'il n'y a pas de glace. Mais quand on arrive sur la céramique, exemple, quand on rentre dans une station de métro, là, ça peut être un petit peu glissant.
D'accord. Il n'y a rien de parfait.
Il n'y a absolument rien de parfait. Et sans plus...
Tarder.
Sans plus autre parenthèse, 24 janvier, nous sommes la journée internationale du sport féminin.
Ah oui.
Événement marquant pour un 24 janvier, d'abord en 1848, découverte d'or en Californie, c'est le début de la ruée vers l'or. 1875, première de la danse macabre, pièce musicale figurative composée par Camille Saint-Saëns. 1909, béatification de Jeanne d'Arc. 24 janvier 1924, trois jours après la mort de Lénine, Petrograd devient Leningrad en l'honneur du fondateur de l'Union soviétique, elle qui redeviendra par la suite Saint-Pétersbourg. 1935, apparition de la canette de bière, une petite révolution qui fera fureur. Frôler la catastrophe, et là je lis ça ce matin et j'ai l'impression de retomber dans un événement que j'ai lu lundi et un autre événement que j'ai lu la semaine dernière, vous allez comprendre pourquoi. Cette fois le 24 janvier 1961, au-dessus d'une petite ville de Caroline du Nord, en perte de carburant, un Boeing B-52 explose.
Un autre
B-52, celui-ci n'avait, pour le dire ainsi, n'avait que deux bombes atomiques, contrairement aux autres qui avaient 4 et 5 bombes hydrogène. Les deux bombes atomiques n'éclateront pas. 5 des 8 aviateurs survivront. Donc c'est quand même dangereux d'être à bord d'un B-52.
Oui, ça fait peur.
1975, peu après les 13 meurtres du bar Gargantua de Montréal, le gangster Richard Blass est abattu par des policiers à Val-David. 24 janvier 1984, le fabricant Apple lance son premier ordinateur, Macintosh. 1988, à Sainte-Clotilde, près de Victoriaville, un incendie dans un hospice cause la mort de 9 patients ayant un handicap mental. 24 janvier 1996, le ministre du Patrimoine canadien, Michel Dupuis, désigne le pont de Québec, lieu historique national. Il est le pont le plus important de l'histoire quand on fait référence au génie civil canadien. Le ministre fédéral des Transports, Jean-Yves Duclos, a par ailleurs rappelé à l'époque que le pont, la structure du pont est jugée sécuritaire jusqu'en 2088, et ce, sans avoir à y ajouter un gallon de peinture, et ça fait écho un petit peu à l'actualité des dernières années concernant le look de ce pont de Québec. 2006, les studios Walt Disney font l'acquisition des studios Pixar, ce studio d'animation 3D derrière plusieurs longs métrages, dont Histoire de jouets. 2009, encore un 24 janvier, la direction du Journal de Montréal décrète un lockout à l'égard de ses 250 employés de la rédaction et de bureau.
On fêtera pas ça aujourd'hui.
On n'en fait pas, mais on mentionne quand même, parce que ça fait partie de l'histoire.
Ça, c'est sûr.
24 janvier 2013, la chef autochtone canadienne Teresa Spence quitte l'hôpital où elle avait été gardée en observation après avoir mis fin à un jeûne, à une grève de la faim de 44 jours, anniversaire de naissance en ce 24 janvier en 1705, naissance de Farinelli, le castrat italien. 1984, Benoît Huot, nageur paralympique québécois, vedette montante, vedette établie dans le monde de la natation et le paralympisme. Et les décès en ce 24 janvier, l'empereur romain Caligula est décédé en l'an 41, un 24 janvier. Et finalement, décédé en 1965, le reporter et homme d'État d'anglais, qui a été également un symbole de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, M. Winston Churchill.
D'ailleurs, il y a un film fantastique qu'il faut voir, et celui qui l'incarne va probablement gagner l'Oscar. Le nom de l'acteur m'échappe, mais il a gagné le Golden Globe.
On y reviendra possiblement dans le bloc culturel.
J'espère. À la une de la presse, des évacuations barbares. Barbare est écrit entre guillemets. Souffrant, paniqué, souvent incapable d'expliquer ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne parlent ni anglais ni français, des dizaines de jeunes Inuits évacués d'urgence par l'avion hôpital du gouvernement du Québec ne peuvent être accompagnés de leurs parents. Outrés, des médecins québécois montent au créneau. Une enquête de Nathalie Petrovski sur Iliane Gamache-Latourelle. Son papier s'intitule « Les mirages de la jeune millionnaire ». Analyse de Denis Lessard, le PQ est le sauveur. Point de suspension, Pelado se dit en réserve de la République. Et la chronique de Marc Cassivi, les leçons de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 obtient 5 sélections aux Oscars dans des catégories techniques. De jeunes Inuits ne peuvent être accompagnés de leurs parents dans l'avion hôpital du gouvernement du Québec, dénoncent des médecins et des leaders autochtones. Une mère courant derrière l'avion qui évacue sa fille défigurée par un chien. Un enfant paniqué qui se réveille seul en hurlant sous les néons d'une salle des urgences montréalaises. Un garçon isolé, incapable d'expliquer ses symptômes parce qu'il ne parle ni anglais ni français. Des médecins québécois montent au créneau et dénoncent le fait que des dizaines de jeunes Inuits sont séparés de leurs parents au moment le plus critique de leur existence, lors de l'évacuation médicale qui vise à leur sauver la vie. Dans une lettre collective obtenue par la presse, ils en appellent au ministre de la Santé. Dans leur lettre au ministre Barrette, le docteur Shane Hussein et ses collègues dénoncent un isolement des enfants qui peut compromettre leur traitement et nuire à leur sécurité. La lettre évoque aussi d'autres histoires d'horreur survenues dans les derniers mois. Une fillette qui a failli s'évader de l'hôpital parce qu'elle voulait retourner chez elle et un bébé tombé de sa bassinette faute de présence parentale. J'étais sous le choc, j'étais nerveuse, je ne savais pas ce qu'il leur faisait. Ils étaient aussi nerveux d'être évacués seuls, ils ne parlaient pas leur langue. C'est Alakou Kulialouk qui parle à propos d'une histoire où elle explique que le sujet ne fait pas l'objet de grandes protestations dans sa communauté parce que c'est quelque chose d'habituel maintenant. Les gens ne veulent pas nager contre le courant. Nous n'avons pas le choix. Du côté de Québec, on fait valoir que l'avion hôpital dispose de places et de personnel limité, tout l'espace étant maximisé pour prodiguer les soins aux patients instables qui demandent un transport et des soins immédiats. A fait valoir le ministère de la Santé, l'appareil compte 3 civières et 1 incubateur. Ce type d'argument n'émeut pas outre mesure ceux qui demandent un changement de politique. Il montre du doigt les autres provinces canadiennes comme preuve du réalisme de leurs demandes. Sauf exception où plusieurs patients instables sont à bord et alors on comprendrait, il y a toujours une place assise supplémentaire pour accommoder un proche de l'enfant, a affirmé la docteure Joannie Tremblay-Pouliot qui pratique dans l'important village nordique de Pouvirnitouk et se fait la porte-parole de ses collègues du Grand Nord. Il nous apparaît barbare, d'une part, de séparer le parent de son enfant, alors que celui-ci est dans un état grave et incertain, et d'autre part, de laisser ses enfants non accompagnés qui ne parlent qu'Inuktitut, seuls à l'urgence de Montréal, a-t-elle poursuivi. Les derniers rayons d'un soleil, d'un célèbre coucher de soleil. Après plus de 40 ans dans la vie des Québécois, la célèbre carte soleil amorce aujourd'hui la fin de son règne. La Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, a dévoilé hier la nouvelle identité visuelle de cette pièce d'identité bien connue qui ressemblera désormais au permis de conduire. Alors, Simon-Olivier Lorange en parle et il écrit « Photo de chasse ». L'anecdote n'est pas un secret très bien gardé. La photo que les Québécois brandissent chaque fois qu'ils vont chez le médecin est un souvenir de voyage croqué par le chasseur Robert Larivière en Abitibi en 1974. Louis Larivière, frère de l'artiste derrière le cliché, était l'un des cofondateurs de la jeune agence de publicité Cossette chargée de concevoir l'identité visuelle de la carte lancée en 1976. C'est lui qui a choisi cette image. Il est rare de voir l'une de nos réalisations perdurer aussi longtemps et rejoindre aussi largement, reconnaît Louis Duchesne, vice-président exécutif et directeur général chez Cossette. D'emblée, le nom « Carte Soleil » qui est passé dans l'usage n'était pas prévu. Le soleil et les sapins n'ont pas complètement disparu de la cuvée 2018, mais ils apparaissent maintenant dans une version pâlie en filigrane. Plus sécuritaire, à la RAMQ, on promet que la refonte assurera une sécurité accrue pour les usagers. On veut prendre les devants sur les faussaires, commente la porte-parole Caroline Dupont. On fait notamment appel à une encre optiquement variable qui change de couleur selon l'éclairage et à des images qui ne sont visibles que sous un rayon ultraviolet au recto et au verso de la carte. Madame Dupont assure par ailleurs que les cartes qui ne sont pas encore expirées, certaines sont encore valides pour 8 ans, demeurent sécuritaires. C'est pour ça qu'on les laisse en circulation, précise-t-elle. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle carte ressemble au permis de conduire, car elle sera désormais produite par la Société de l'assurance automobile du Québec. Voie de contournement à Lac-Mégantic, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, affirme qu'Ottawa est prêt à investir une somme substantielle pour la construction d'une voie de contournement du chemin de fer à Lac-Mégantic et qu'il tient à régler tous les détails de ce projet avant le 5e anniversaire de la tragédie ferroviaire qui a coûté la vie à 47 personnes en juillet 2013. Dans une entrevue accordée à la presse, le ministre Marc Garneau, qui se trouve en Israël, pour une visite de 3 jours, a indiqué hier que le gouvernement fédéral avait déjà mis de côté les fonds pour financer une bonne partie des coûts liés à la construction de cette voie et il presse le gouvernement Couillard de participer aussi au financement. Le gouvernement fédéral est prêt à contribuer un montant substantiel pour la construction d'une voie de contournement à Lac-Mégantic. C'est un dossier sur lequel je travaille depuis que je suis au ministère des Transports. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a salué l'annonce du ministre Garneau. « Nous avons un engagement clair de la part du gouvernement fédéral. C'est une grande nouvelle pour les Méganticois. Je vais vous avouer que je suis très émue. » Offre patronale rejetée. Possible grève dans le transport scolaire. Dans le secteur du transport scolaire, des travailleurs syndiqués affiliés à la CSN ont rejeté hier soir les offres patronales à 98 % et ont reconduit un mandat de grève. Ce mandat pourrait être mis en œuvre les 30 et 31 janvier prochains si aucune entente ne survient entre les parties d'ici là, a-t-on affirmé. Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco CSN a soutenu que de trop maigres avancées avaient été réalisées et que les résultats obtenus hier soir réaffirmaient un refus catégorique de laisser l'employeur imposer des conditions salariales qui appauvrissent les membres. Le conflit de travail pourrait toucher près de 15 000 élèves répartis sur plus de 300 parcours scolaires, a soutenu le syndicat. Et pour terminer, les pêcheurs de crabes du golfe du Saint-Laurent devront réduire la quantité de cordes utilisées pour attacher leurs casiers afin de minimiser les risques d'empêtrement des baleines noires, une espèce en péril. Ils devront aussi signaler toute perte d'engins de pêche. Le ministre des Pêches et des Océans, Dominique Leblanc, a annoncé ces mesures de protection hier à Moncton. Elles toucheront environ 250 équipages qui pêchent le crabe des neiges dans le sud du golfe. 12 baleines noires ont été retrouvées mortes dans les eaux canadiennes en 2017, un nombre record. Au moins 2 des animaux qui ont subi une nécropsie étaient empêtrés dans des engins de pêche aux crabes. « On ne veut pas que des mètres et des mètres de cordes flottent à la surface », a déclaré le ministre Leblanc. Il dit avoir lui-même observé beaucoup d'équipements perdus ou abandonnés des semaines après la fin de la saison de pêche.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'île. de Malou en bande dessinée. Je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Oh Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
L'homme à la tête de chou, c'est le titre de l'album qui aborde cette pièce, un extrait de 1976, Serge Gainsbourg, Marie-Lou sous la neige.
Et en lien avec la chanson qu'on vient d'entendre, 24 heures sous la neige, le verglas et la pluie. Un cocktail météo de neige et de verglas a rendu la circulation dangereuse sur les routes et forcé nombre d'écoles à fermer leurs portes mardi dans plus d'une dizaine de régions du Québec. Si le pire est passé, les Québécois devront toutefois continuer à prendre garde mercredi aux chutes de glace en provenance des toits et des meubles. En plus de bien faire attention pour ne pas glisser sur la chaussée et les trottoirs alors qu'on voit deux... Je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas parce qu'on risque, c'est drôle, comme dirait l'autre. Des automobilistes en train de gratter leur voiture, de déglacer le pare-brise. Une activité très populaire par les temps qui courent. La haine gagne du terrain. Les crimes haineux ont atteint un sommet en août, au plus fort de la vague de demandeurs d'asile irréguliers. CSDM, des stages payés pour contrer la pénurie de suppléants. L'Université de Montréal réaménagera ses cours pour libérer des finissants en éducation. Jeux olympiques, les pros absents, place aux hockeyeuses. L'équipe féminine devrait profiter d'une plus grande vitrine à Pyeongchang. Culture, la course aux Oscars. Blade Runner 2049 obtient 5 nominations, mais est absent de la course pour le meilleur film. Baccalauréat, le Québec accuse du retard sur le reste du Canada. Et libre-échange, le PTP s'invite à la table de renégociation de l'ALENA. L'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile l'été dernier a déclenché une vague de crimes haineux encore plus grande que celle suivant l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, a appris Le Devoir. Au mois d'août 2017, le service de police de la Ville de Montréal a retenu et classé dans le classeur crimes haineux 42 signalements, surtout observés sur les réseaux sociaux, contre 31 en février. Au total, près de 250 crimes haineux ont été rapportés l'an dernier pour une moyenne d'environ 20 par mois. Selon Lynn Lemay, lieutenante détective chargée des enquêtes à la division crimes, prévention et sécurité urbaine du SPVM, le triste record de crimes haineux du mois d'août est dû à la grande attention médiatique portée sur les migrants, surtout d'origine haïtienne, qui arrivaient en grand nombre au Québec depuis les États-Unis. Mais les personnes d'origine haïtienne n'ont pas été visées plus que d'autres. C'est vraiment parti dans tous les sens, a-t-elle dit. Les crimes haineux, c'était autant l'extrême droite qui émettait des opinions qui pouvaient s'avérer des menaces que des gens de l'extrême gauche qui répondaient à ça. Serge Bouchereau, porte-parole du Comité d'action des personnes sans statut, parle d'une quantité sans précédent de commentaires et propos haineux. C'est toujours la même chose. On entend « ces gens-là viennent voler nos jobs, on devrait les foutre dehors », dit-il. Mais aucun de nos demandeurs d'asile ne nous a rapporté avoir été menacé physiquement. Les crimes haineux sont passés de 158 en 2016, de mars à décembre, à près de 250 pour toute l'année 2017. À quelques jours du 29 janvier, alors que sera commémorée la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, la division des crimes haineux de la lieutenant-détective Lemay est sur le pied d'alerte. On va suivre ça de près et voir si la commémoration a une incidence, dit-elle. À son étonnement, cela ne semble pas avoir eu d'impact jusqu'ici. Des stages payés pour contrer la pénurie de suppléants. Voilà enfin une piste de solution pour venir à bout de la pénurie d'enseignants dès la rentrée de l'automne prochain. Des finissants en éducation de l'Université de Montréal viendront en renfort à la Commission scolaire de Montréal. Pour la première fois, leur stage final sera même rémunéré. Le Devoir a appris que la Faculté des sciences de l'éducation de l'UdeM a accepté de modifier l'horaire de ses cours pour libérer du temps aux étudiants de quatrième année qui veulent travailler à la CSDM durant la journée. Il y aura davantage de cours d'été ainsi qu'en soirée l'automne prochain pour permettre aux stagiaires de travailler le jour sans nuire à leurs études. Renseignements personnels piratés chez Bell. Bell Canada a visé mardi certains de ses clients que leurs renseignements personnels pourraient avoir fait l'objet d'un piratage informatique. La Gendarmerie royale du Canada confirme qu'elle enquête présentement sur ce dossier sans pouvoir donner plus de détails. La compagnie a également avisé le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada que ces données avaient été compromises. C'est ainsi la deuxième fois en 8 mois que Bell avise ses clients d'une fuite de renseignements personnels. Cette compagnie de télécommunications, parmi les principales au pays, avait ainsi révélé en mai 2017 qu'un pirate informatique avait obtenu illégalement 1,9 million d'adresses courriels actives et environ 1 700 noms et numéros de téléphone actifs. Ils sont au courant de la brèche de sécurité, ce qui est en soi bon signe, affirme le chercheur montréalais en cybersécurité, Olivier Bilodeau. Impossible, pardon, de savoir si cette attaque particulière aura ou a déjà des conséquences. À Davos, les femmes qui cachent la forêt, des mâles alpha. 7 femmes sur le devant de la scène des tables rondes en pagaille sur le harcèlement ou l'égalité salariale, mais seulement 21% de participantes, le Forum économique mondial de Davos reste un monde d'hommes. C'est sur une image très symbolique que s'est ouverte mardi la grand-messe annuelle de l'élite économique et mondiale dans la chic station de ski suisse, celle des co-présidentes de l'événement. Il y a là Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, et Isabelle Kocher, patronne du groupe Engie, ainsi que Sharon Burrow, secrétaire générale de la Confédération internationale des syndicats, la première ministre norvégienne Erna Solberg, Fabiola Gianotti, directrice générale de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Virginia Gini Rometty, patronne d'IBM, et l'activiste indienne Chetna Sinha. J'espère que nous pouvons prouver collectivement que même sans testostérone, il est possible de trouver des solutions aux problèmes du monde, a lancé la patronne du FMI. De la testostérone, Davos n'en manque pas. La proportion de participantes ne progresse que péniblement, 18 % en 2016, 20 % en 2017, 21 % cette année. Lors d'une table ronde en pleine discussion sur le leadership des femmes, l'activiste ougandaise rappelle aussi au Gotha de l'économie mondiale le sort de celles tout au bout de la chaîne de production, les ouvrières ou les domestiques, premières victimes de harcèlement et de violence. La Banque nationale a annoncé la construction d'un nouveau siège social à l'angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Robert-Bourassa sur une partie du terrain que vient d'acheter le développeur Broccolini. Ce projet donnera naissance à la plus importante tour de bureaux construite au centre-ville depuis 25 ans. Afin d'en assurer la réalisation, la Banque nationale s'associera à la firme Broccolini ainsi qu'à de nombreux autres professionnels, spécialistes et fournisseurs qui sont des clients actuels ou futurs de la banque. L'institution occupe présentement la tour 600 rue de la Gauchetière depuis le début des années 1980. Un élève a ouvert le feu mardi dans son école secondaire de l'État du Kentucky, tuant 2 adolescents et faisant 17 blessés avant d'être arrêté. Le tireur a été interpellé de façon non violente par un agent du shérif, puis placé en garde à vue. Il s'agit d'un élève de l'école âgé de 15 ans. Il sera inculpé de meurtre et de tentative de meurtre, a déclaré Matt Beaven, le gouverneur de cet État situé à l'ouest des Appalaches. Une lycéenne de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché par balle et est mort à l'hôpital, a ajouté le gouverneur. Et Justin Trudeau convainc un public conquis d'avance. Justin Trudeau n'a pas fait courir les foules au Forum économique mondial de Davos mardi, mais son discours axé sur l'égalité homme-femme et le progressisme a été plutôt bien reçu. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, édition du 24 janvier 2018. Hélène Denis avec vous et restez là puisque après la chanson, il y aura la revue de presse du Journal de Montréal. Bonne journée.
S'assoyait sur un banc, j'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait 2 fois mon âge, belle comme le printemps, comme un fruit dont on se lasse à peine 30 ans. Je m'allongeais à sa place, dans son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. De sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grande mes ailes, sortant de chez elle, ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé. J'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Dans le parc, on marchait ensemble. Elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait 2 fois mon âge, belle comme le printemps, comme un fruit dont on se lasse à peine 30 ans. je m'allongeais à sa place. Dans son lit parfumé blanc, elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. Glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grandes mes ailes, sortant de chez elle, ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé tout le temps. Ah, 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 oh, oh. J'étais amoureux.
De son album Sortir du bois, Claude Dubois, plein de tendresse. Erratum de ma part, non pas sortir du bois, sorti du bois.
À la une du Journal de Montréal en ce milieu de semaine, 66 $ pour enfiler une jaquette, un masque et des gants, une prime « jaquette » entre guillemets pour des médecins spécialistes. Quelqu'un qui semble un petit peu tanné de l'hiver, encore 148 jours avant l'été, point de suspension, alors qu'on voit, comme à la une du Devoir, quelqu'un en train de déglacer sa voiture. Le choc des idées, l'argent du cannabis et les libéraux, c'est une chronique de Mario Dumont. CAQ, difficile de rester au sommet, c'est une chronique de Rémi Nadeau. Et bien triste nouvelle, saut fatal, passionné de sensations fortes, Aimé Jean Saint-Hilaire Adam est mort tragiquement en Californie. Collision mortelle en plein vol, c'est vraiment un choc pour tout le monde. On savait qu'il prenait des risques en faisant du wingsuit, mais on ne s'attendait jamais à apprendre la mort de quelqu'un qu'on aime comme ça, a souligné la cousine de la victime, Marie-Anne Adam. En après-midi, lundi, Aimé Jean Saint-Hilaire Adam prenait part au championnat de la Wide Open Wingsuit Series à Perris, à plus de 100 km de Los Angeles. Pendant que l'homme de 27 ans planait à l'aide de sa combinaison ailée, un autre participant serait entré en collision avec lui, selon ce qu'a affirmé le responsable de l'aéroport de Perris au réseau CBS. Le natif de Ripon, en Outaouais, a poursuivi sa chute pour finalement s'écraser brutalement sur le toit d'une résidence d'un quartier résidentiel, environ 3 km de l'aéroport. Le meilleur ami de la victime, Simon Séguin-Beauchamp, avait de la difficulté à contenir ses sanglots après avoir appris la mort de celui qu'il considérait comme un frère. Depuis son jeune âge qu'il repoussait ses limites, a-t-il raconté. C'était un casse-cou et un travailleur acharné. Un meurtrier en cavale. Un meurtrier schizophrène s'est évadé de l'Institut Philippe Pinel il y a 2 jours et la mère de sa victime a peine à croire que le système a laissé sortir sans surveillance l'homme qui a charcuté son fils en le poignardant à 91 reprises il y a 7 ans. L'homme a été tué par Sean Brennan, 29 ans, qu'il avait pris sous son aile temporairement par pure gentillesse. Steve Brennan mesure 1,80 m, pèse 95 kg, a les cheveux rasés, les yeux verts et s'exprime en anglais et en français. « juste pour conclure sur cette nouvelle, toute information concernant Sean Brenham peut être transmise à la Sûreté du Québec en composant le 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Une prime de 66 $ pour chaque patient en isolement. Québec a versé près de 8 millions depuis 3 ans pour un extra de 65 $ que touchent les spécialistes en médecine interne chaque fois qu'ils s'occupent d'un patient en isolement, atteint d'une maladie contagieuse comme la grippe ou la gastro. Bien qu'elle existe depuis quelques années, cette prime est aussi méconnue dans le monde de la santé et dans le grand public que la controversée prime à l'assiduité qui permet à des spécialistes d'empocher 105 $ chaque fois qu'ils arrivent à l'heure le matin pour une intervention chirurgicale. D'autres travailleurs du réseau de la santé qui n'ont droit à aucune prime pour se vêtir de la même manière dénoncent ce traitement préférentiel. Pour le Dr Mario Dallaire, président de l'Association des spécialistes en médecine interne, cette prime se justifie par la lourdeur des cas. Quand les internistes vont voir des patients en isolement, on considère qu'ils vont voir des cas plus lourds qui prennent souvent plus de temps. Selon Mario Dallaire, ce supplément ne peut être facturé qu'une fois par semaine pour chaque patient. Les visites de contrôle qui ont lieu chaque jour ne donnent pas droit au forfait jaquette. De plus, certains médecins ne le facturent pas systématiquement. La moyenne des docteurs pense plus à soigner du monde qu'à remplir leurs factures, soutient le Dr Dallaire. L'ex-chef du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, ne rejette pas la possibilité d'un retour en politique et se dit en réserve de la République. C'est ce qu'il a indiqué en entrevue sur les ondes d'ici Radio-Canada Première hier matin. Le président de Québecor refuse toutefois de s'avancer sur le moment où il pourrait tenter un tel retour. « Nous avons un chef au Parti québécois, c'est Jean-François Lisée. Je laisse le soin à mes collègues pour qui j'ai énormément d'estime de faire le travail politique », a-t-il ajouté. De plus en plus extrêmes, les phénomènes climatiques inhabituels vont gagner en importance. Depuis le début de l'hiver, le Québec a connu un inhabituel froid glacial en décembre, suivi d'un redoux hors du commun les 11 et 12 janvier derniers, qui a contribué à faire sortir des rivières de leur lit. S'ajoutent à cela quelques tempêtes hivernales d'envergure qui ont donné bien de la neige à pelleter aux Québécois, le tout souvent accompagné de pluies verglaçantes, comme ce fut le cas hier. Bref, un bien drôle de mélange météo. Ça va gagner en importance. La plupart des chercheurs sont cohérents là-dessus, avertit le météorologue Gilles Brien. Le réchauffement climatique se traduit par des hivers un peu plus doux, poursuit-il. On remarque aussi que les quantités de neige reçues diminuent également, mais viennent dans des épisodes plus violents. Plus que jamais, la population devra rester alerte et prendre au sérieux les avertissements, estime M. Brien. On l'a vu l'an passé avec le cafouillage de l'autoroute 13 lors de la super tempête. Il y a eu 300 chars qui sont restés pris. Les gens n'écoutent pas les alertes et les avertissements météo et ils prennent des risques, termine le météorologue. Marc-André Paquin prendra le chemin des cellules pour un coup de pied qui aurait pu être fatal. Il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait grave hier avant midi au palais de justice de Shawinigan. Les faits remontent à septembre 2015 lors d'une altercation entre l'accusé et la victime au Festival Western de Saint-Tite. Marc-André Paquin estimait que Martin Caron se faisait un peu trop insistant pendant une discussion avec une de ses amies. Les esprits se sont échauffés, mais des gens se sont assurés de les séparer afin qu'ils n'en viennent pas au coup. Toutefois, Martin Caron se serait penché pour ramasser une peluche qu'il avait gagnée plus tôt dans la soirée. C'est alors que Marc-André Paquin lui a asséné un violent coup de pied à la tête. Et les géants pharmaceutiques sont de plus en plus attaqués pour leur rôle dans l'épidémie d'opiacés qui ravage les États-Unis. La ville de New York a assigné plusieurs d'entre eux en justice hier. Dans une plainte déposée hier devant la Cour suprême de l'État de New York, la municipalité attaque les sociétés Purdue Pharma, Teva, Cephalon, Johnson & Johnson et Janssen en leur réclamant $250 million pour aider à financer la lutte contre cette épidémie. New York s'ajoute ainsi à plusieurs centaines de juridictions. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another?
De la compilation Beatles Reimagined, c'était Edward Sharp and the Magnetic Zeros avec bien sûr cette reprise des Beatles, I Saw Her Standing There.
La tournée des journaux régionaux, dans le droit, une chronique signée Sylvain Saint-Laurent intitulée Pour ne pas oublier Jean Bernard. Un club de hockey senior de Tulsa qui doit emprunter une porte secrète de l'aréna de Buckingham durant les séries, de façon à ne pas se faire attaquer par des partisans en furie. Un garçon d'une dizaine d'années qui est retenu au sein de l'équipe d'étoiles réunissant les meilleurs hockeyeurs des 10 paroisses de Hall pour participer au tournoi PMU de Québec. Un bel après-midi d'été, lors duquel des centaines de spectateurs se réunissent au Parc Fontaine pour voir s'affronter les meilleures équipes de la Ligue de Balmol commerciale. Il y a quelque chose de franchement fascinant à relire les chroniques du regretté Jean-Bernard Rainville que le droit a publié pendant une dizaine d'années durant les décennies 1980 et 1990. Monsieur Rainville avait été embauché à l'époque pour s'adresser à une clientèle un peu nostalgique. Une fois par semaine, il donnait la parole à des personnages qui ont marqué l'actualité sportive régionale dans les années 1950, 60, 70. J'ai relu une quarantaine de ses papiers dans les derniers jours. Je vous le répète, c'est fascinant. Fascinant de lire des histoires qui parlent de quilles, de fastball, de ballon-ballet et de crosse pour comprendre que ces disciplines ont déjà fait l'objet de compétitions très sérieuses. C'est fascinant de lire tous ces noms. Dans une tartine de 800 mots, M. Rainville pouvait facilement invoquer une quinzaine de grands sportifs bien connus de tous. À son époque, il n'y avait pas d'écran de 60 pouces dans les sous-sols des chaumières. Les chaînes câblées spécialisées et le streaming n'existaient pas. À son époque, les héros sportifs brillaient localement. Ce qui est fascinant, c'est que l'Outaouais qu'il décrit a vraiment peu de choses à voir avec la région dans laquelle je vis aujourd'hui. Ça ne fait pas si longtemps quand on calcule les années. On a l'impression que ça fait longtemps quand on constate à quel point notre monde a changé, m'a dit un collègue légèrement plus expérimenté que moi, Pierre Jury, pour ne pas le nommer. Par association, Jean-Bernard Rainville fut lui aussi un personnage plus grand que nature dans le monde du sport. Avant de se greffer à l'équipe du droit, il connut une certaine forme de célébrité à titre d'annonceur de nouvelles sportives à la télévision de Radio-Canada. Il paraît qu'il était flamboyant, tant dans sa façon de s'exprimer que dans sa façon de se présenter. Son bulletin de sport, il le vivait. C'était lui qui jouait au hockey, au baseball, au football. Il donnait l'impression de faire partie de toutes les parties qu'il décrivait, m'a raconté un autre vétéran des médias, Michel Picard. Jean-Bernard, c'était une vedette. Les gens couraient après pour obtenir son autographe. Et il n'était pas prétentieux du tout. Il parlait avec tout le monde. Il appartenait au public, a-t-il ajouté. Personnellement, je n'ai pas vraiment connu M. Rainville. J'ai effectué mes premiers quarts de travail dans la salle de rédaction du droit en 1998, au moment où il publiait ses dernières chroniques. Nous nous sommes croisés dans les portes. Lors de nos rares conversations, j'ai pu constater qu'il avait conservé une certaine grandeur, comme s'il ne voulait pas qu'on oublie le personnage important qu'il avait déjà été. On l'a retrouvé sans vie dans son appartement la semaine dernière. Souvent, les gens qui vivent dans le public sont profondément seuls, m'a soufflé à l'oreille un autre géant de l'information d'ici. Quelqu'un doit forcément avoir une idée pour honorer sa mémoire. Ce serait bête de le voir partir sans lui rendre hommage. Dans Le Soleil, Jean-Marc Salvet, Lisée invite PKP à le rejoindre. Jean-François Lisée invite Pierre-Carl Péladeau à se joindre à son équipe pour les prochaines élections. Mais on comprend qu'il n'entend pas lui céder sa place de chef du Parti québécois. Monsieur Lisée fait-il contre mauvaise fortune bon cœur? À Trois-Rivières, il a invité Monsieur Péladeau à briguer un poste de député au prochain scrutin et à devenir ministre dans un éventuel gouvernement qu'il dirigerait. Dans une entrevue accordée à l'émission Médium Large de Radio-Canada plus tôt en journée, Pierre-Carl Péladeau n'a pas annoncé comme tel son retour au PQ, mais il s'est dit en réserve de la République. Il a souligné que la vie familiale et la politique sont conciliables. Il a noté que sa fille Romy, âgée de 9 ans, l'a encouragé à replonger en politique avant d'ajouter, comme pour minimiser ce qu'il venait de dire, qu'il ne sait pas s'il suivra ses conseils. Il s'est aussi dit loyal et attentif à la collégialité. « Je suis avec Romy. Lâche pas Romy », a lancé Jean-François Lisée en commentant les propos du patron de presse qui est aussi son prédécesseur. « Je pense que ce serait une bonne idée que Pierre-Carl Péladeau fasse partie de l'équipe du Parti québécois en octobre prochain. Il le sait que je souhaite qu'il revienne. C'est à lui de décider. La porte est grande ouverte. Je veux qu'il sache que le chef du Parti québécois, les militants du Parti québécois seraient très heureux qu'il fasse partie de notre équipe. Il faut avoir des équipes fortes. Veut-il revenir maintenant, plus tard? » M. Lisée l'invite à prendre une décision. Les signaux qu'il a reçus jusqu'à présent de M. Péladeau lui laissent cependant croire qu'il ne reviendra pas à court terme. Si Pierre-Carl Péladeau est apprécié de plusieurs au sein de la députation du Parti québécois, les députés serrent pour l'heure les rangs derrière Jean-François Lisée. C'est le message général qui se dégage d'une tournée téléphonique du Soleil. Dans le Nouvelliste, une renaissance prometteuse pour le Metal Fest. Le Trois-Rivières Metal Fest ne pouvait rêver relance plus spectaculaire. L'événement qui fête en 2018 ses 15 ans avait été mis en veilleuse pour les deux dernières éditions, mais il reprendra vie au cabaret de l'Amphithéâtre les 6 et 7 avril prochains. Les organisateurs ne s'en cachent pas, l'événement était rendu à la croisée des chemins et la possibilité de s'installer à l'Amphithéâtre Cogeco ne pouvait arriver à un meilleur moment. Né au Maquisard au début des années 2000, le Festival Metal a par la suite déménagé à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition, où il profitait d'une salle beaucoup plus grande mais aux qualités acoustiques laissant à désirer. Désormais, l'événement se tiendra dans une salle d'une capacité limitée à 600 spectateurs, mais aux qualités acoustiques très nettement améliorées. En plus, on pourra compter sur une équipe complète et très professionnelle pour assurer la présentation de l'événement, d'indiquer Jean-François Houle, co-organisateur du Metal Fest. C'est une amélioration énorme et je sens qu'on a désormais les éléments en place pour assurer le succès futur de l'événement. On a connu de très belles éditions par le passé, mais grâce à l'appui des gens de l'amphithéâtre, ça va être meilleur encore. Pour asseoir cette relance, le comité de programmation a effectué un boulot considérable, tablant sur sa connaissance de la clientèle, mais aussi du marché nord-américain. Une douzaine de groupes sont déjà engagés et deux places restent à être comblées dans la programmation de deux soirées. La tête d'affiche du tout sera sans doute Deicide, D-E-I-C-I-D-E. Groupe de death metal en provenance de Floride qui se produira le vendredi soir. Le lendemain, le groupe montréalais Despised Icon comblera les amateurs du style deathcore ou deathcore plutôt, dont il a été un leader international au début des années 2000. Il s'agit pour ce groupe d'un retour sur scène après une absence de 5 ans. Les organisateurs promettent de gros noms pour compléter la programmation de cette édition de la relance. L'événement jouit d'une forte cote de popularité depuis longtemps, explique Annie Richard, co-organisatrice. Et dans la tribune, Claude Plante, le DG de Sherbrooke, annonce sa retraite. La ville de Sherbrooke devra se trouver un nouveau directeur général. Yves Vermette a informé les élus et le personnel de l'administration municipale qu'il quittera ses fonctions à la mi-juin. Entré en poste en décembre 2013, M. Vermette prendra sa retraite après une carrière de 21 ans dans les Forces armées canadiennes, de 6 ans en consultation et de près de 15 ans à la ville de Sherbrooke. Annoncé un communiqué de presse diffusé en fin d'avant-midi mardi. La direction générale d'une grande ville a été une expérience humaine extraordinaire, a-t-il exprimé. Je garderai un très bon souvenir de tous ceux et de toutes celles avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Yves Vermette a commencé sa carrière municipale en 2003 à titre de chef de la section de l'approvisionnement pour devenir ensuite adjoint au directeur général adjoint à la gestion du territoire, puis directeur du service de l'entretien et de la voirie en 2006. On lui doit notamment la politique de viabilité hivernale de la ville de Sherbrooke et la réalisation de nombreux travaux majeurs de rénovation, notamment ceux du Palais des sports Léopold Drolet et des travaux de construction du centre de foire et du poste de police. M. Vermette a mis en place un programme d'amélioration continue et un plan d'optimisation qui permet maintenant des économies récurrentes annuelles de plus de 10 millions et en assurant le renouvellement des conventions collectives de tous les groupes d'employés, ajoute-t-on. Star de jazz, fait du bien ça. Un petit requin pêché à Saint-Fulgence, c'est dans le quotidien Patricia Rainville. Décidément, le Saguenay est rempli de surprises cet hiver. Un petit requin a été pêché à Saint-Fulgence dimanche. Il s'agit d'un aiguilla commun d'environ 3 pieds, capturé puis remis immédiatement à l'eau après la traditionnelle photo. De mémoire d'homme, c'est seulement la deuxième fois qu'un tel spécimen est capturé dans les eaux du Saguenay. L'histoire de pêche miraculeuse a été racontée au quotidien par le président de promotion pêche, Rémi Aubin, en soirée mardi. Le petit requin a été pêché à 13h dimanche au large de Saint-Fulgence. Oui, c'est vrai. Les poissons de fond sont également très imposants cette saison. Rappelons la prise notamment d'Olivier Trudeau qui a sorti une morue de 53 livres des eaux de la BDAA vendredi dernier. Assez impressionnant, n'est-ce pas, Jean-Sébastien?
Absolument, ça frappe l'imaginaire un peu.
Oui.
Il avait fait un passage remarqué à l'édition 2017 de La Voix. C'était Willis Pride et le premier extrait de son album Wake Up, I'm Your Man.
Actualité culturelle, 5 choses à retenir des nominations aux Oscars. C'est dans le Journal de Montréal, mais on en parle également dans Le Devoir et dans la presse, notamment. Principale nomination, meilleur film « Appelle-moi par ton nom ». On a décidé de donner les titres en français, les versions françaises. Dunkerque, Get Out, ici, ça fait exception. L'heure la plus sombre, Lady Bird, Le Poste, Le fil caché, La forme de l'eau et trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri. Meilleure réalisation, Guillermo del Toro pour La forme de l'eau, Christopher Nolan pour Dunkerque, Jordan Peele, Get Out, Greta Gerwig, Lady Bird, Paul Thomas Anderson, Le fil caché. Meilleur acteur, Timothée Chalamet pour son rôle dans Appelle-moi par ton nom, Daniel Day-Lewis pour son rôle dans Le fil caché, Gary Oldman, L'heure la plus sombre, c'est le nom que je cherchais tantôt, Jean-Sébastien, alors que Jean-Sébastien nous parlait d'un anniversaire de la mort de Churchill et Gary Oldman interprète Churchill dans ce film. Daniel Kaluuya dans Get Out et Denzel Washington pour Roman J. Israel ESQ. Meilleure actrice, Sally Hawkins pour La forme de l'eau, Frances McDormand, trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri, Margot Robbie pour le film Moi, Tonya, Saoirse Ronan dans le film Lady Bird et Meryl Streep pour sa prestation dans Le Poste. Et justement, parlant de Meryl Streep, les annonces de nomination aux Oscars se suivent et se ressemblent pour elle. L'actrice de 68 ans a décroché hier la 21e nomination de sa carrière grâce à son rôle dans Le Poste de Steven Spielberg. Inutile de dire qu'elle est l'interprète la plus nommée de l'histoire aux Oscars, hommes et femmes confondus. Ses principales concurrentes pour l'Oscar de la meilleure actrice cette année, je viens de vous les mentionner, est James Franco, ignoré après avoir triomphé aux Golden Globes il y a 2 semaines pour son rôle dans L'artiste du désastre. James Franco a été écarté de la liste de finalistes pour l'Oscar du meilleur acteur. Rappelons qu'après la soirée des Golden Globes, Franco avait été pointé du doigt par plusieurs femmes qui l'ont accusé d'inconduite sexuelle. Ensuite, pas de controverse raciale ayant éclaté il y a 2 ans la controverse Oscar So White des Oscars Si Blancs sur le manque de diversité dans les catégories d'interprétation ne renaîtra pas cette année. C'est que pour une seconde année d'affilée, les acteurs et actrices de couleur sont bien présents dans les catégories d'interprétation. On parle maintenant de Denis Villeneuve. Autre article intitulé « Villeneuve satisfait ». Son film « Blade Runner 2049 » a été nommé à 5 reprises. L'étoile de Denis Villeneuve continue de briller à Hollywood pour une 3e année d'affilée. Le cinéaste québécois a vu un de ses films récolter plusieurs nominations aux Oscars alors que son thriller de science-fiction « Blade Runner 2049 » a été retenu hier dans 5 catégories pour la grande messe du cinéma. « Je suis soulagé et très fier de mon équipe », a confié Villeneuve. Même si « Blade Runner 2049 » a été écarté de la course pour les prestigieux prix du meilleur film et de la meilleure réalisation, Villeneuve s'est dit satisfait de ses 5 nominations. Si elles ont toutes été obtenues dans des catégories techniques, meilleure direction photo, meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore, meilleure direction artistique et meilleur effet visuel, le cinéaste québécois est loin de voir ses 5 citations comme un prix de consolation. Il a d'ailleurs sabré le champagne après avoir appris la nouvelle hier matin. La compétition était féroce cette année, alors c'était déjà un soulagement de voir qu'on avait pu obtenir 5 nominations, a admis hier Villeneuve lors d'une conférence de presse téléphonique avec quelques journalistes. Je dirais que contrairement à l'an passé pour l'arrivée ou Arrival, je n'avais pas d'attente pour les prix du meilleur film et de la meilleure réalisation. J'étais donc un peu plus détendu cette fois-ci. C'est quand même un privilège de se réveiller le matin et d'être nerveux parce que tu as des chances potentielles d'être nommé aux Oscars. Je suis pas mal de bonne humeur. Rappelons que c'est la 3e année d'affilée qu'un film réalisé par Denis Villeneuve se retrouve parmi les finalistes aux Oscars. Il y a 2 ans, son thriller Sicario avait obtenu 3 nominations. L'an passé, c'était au tour du film « L'arrivée » de briller en décrochant 8 nominations, notamment dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation, une première pour un cinéaste québécois francophone. Selon Villeneuve, les résultats décevants de « Blade Runner 2049 » au box-office américain ennuient à sa course aux Oscars. « forte demande pour Céline Dion en Asie. La tournée asiatique de Céline Dion suscite l'enthousiasme. La demande est telle qu'en Chine, le système de vente de billets a planté quand plus de 300 000 utilisateurs se sont branchés au même moment pour réserver leur place pour ses premiers concerts à Taipei. Sous la direction de la maestra canadienne Tania Miller, le violoncelliste Stéphane Tétrault se produira de nouveau avec l'Orchestre métropolitain après en avoir récemment partagé le succès en tournée européenne. Cette fois, le virtuose québécois interprétera le concerto pour violoncelle de Samuel Barber, composé au terme de la Seconde Guerre mondiale. Cette œuvre illustre l'espoir renaissant en 1945 et s'inscrit dans un programme consacré à la folie belliqueuse. D'où l'interprétation de la symphonie numéro 5 du Danois Carl Nielsen, œuvre en deux mouvements construite sur des oppositions inspirées de la Grande Guerre, imaginée et écrite entre 1920 et 1922. L'OM coiffera le tout avec la symphonie numéro 7 de Beethoven, vue comme un élan d'espoir et de liberté, le 1er février à 19h30 à la Maison Symphonique, le 31 janvier à 19h30 au Théâtre des Jardins de la Salle, le 2 février à 20h à l'église Saint-Joachim de Pointe-Claire. Le chanteur et compositeur américain Neil Diamond a annoncé qu'il cessait immédiatement ses tournées parce qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson. Suivant le conseil de son médecin, ce natif de Brooklyn qui fête aujourd'hui ses 77 ans, ne se rendra pas en mars en Australie et en Nouvelle-Zélande où il devait donner des concerts à l'occasion du 50e anniversaire du début de sa carrière. Dans un communiqué, l'artiste déclare toutefois qu'il a l'intention de rester actif encore longtemps dans l'écriture, l'enregistrement et d'autres projets. Neil Diamond doit être honoré dimanche aux Grammy Awards où il recevra un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Légende sud-africaine du jazz et figure de la lutte contre l'apartheid, le trompettiste et chanteur Hugh Masekela s'est éteint hier à 78 ans. L'annonce de sa mort a suscité de nombreux hommages pour saluer sa musique intemporelle et son engagement politique. À la suite de l'indignation exprimée par plusieurs personnes, dont le maire David Samzoun, le chanteur et musicien français Bertrand Cantat fera l'impasse sur un concert qu'il devait donner le 29 juillet à Saint-Nazaire dans le cadre du festival Les Escales. Dans une lettre aux organisateurs, le maire Samzoun ou Samzon a exprimé sa totale désapprobation quant à la venue du chanteur de 53 ans reconnu coupable en 2003 du meurtre de sa compagne Marie Trintignant. Condamné à 8 ans de prison, il avait été libéré à la moitié de sa peine. En annonçant l'annulation, le directeur du festival, Gérard Clabeau, a écrit « Celui que nous invitions, c'était le chanteur qui, de Noir Désir, en passant par Détroit et Amor Fati, a contribué à écrire l'histoire du rock français. » We'll be right back.
Il nous apprenait à l'instant qu'il est décédé hier. C'était donc Hugh Masekela, le trompettiste jazz sud-africain, avec la pièce « Grazing in the Grass ».
Segment libre, je vais vous lire l'enquête signée Nathalie Petrovski intitulée « Les mirages de la jeune millionnaire ».« Jeune millionnaire » est écrit entre guillemets. Depuis la publication de « La jeune millionnaire » en 2014, Eliane Gamache-Latourelle est une conférencière convoitée. Son histoire, celle d'une pharmacienne devenue millionnaire à 30 ans, a séduit des milliers de personnes. Mais sous les apparences se cachait une femme vivant à crédit et croulant sous les dettes qui a laissé des associés et des clients déçus et désenchantés par la fausse représentation dont ils s'estiment victimes. C'était à l'automne 2014. La salle de réception du Ritz était bondée de visages connus. Sous les chandeliers, les serveurs chargés de plateaux circulaient parmi les vedettes du showbiz et du monde des affaires. Ici, le millionnaire Luc Poirier, là-bas, le dragon Serge Beauchemin. Plus loin, Julie Dupage, Anne-Marie Lozic, Kim Lizotte et Mireille Desglin souriaient pour les caméras, tandis qu'au lutrin, sur la petite estrade, l'animatrice Isabelle Maréchal se préparait à présenter l'héroïne du jour, une blonde à peine trentenaire du nom d'Eliane Gamache-Latourelle. Aidée par la plume et les contacts de l'auteur Marc Fisher, elle lançait en grande pompe ce soir-là le livre « La jeune millionnaire, son histoire », celle d'une pharmacienne propriétaire de 5 pharmacies, partie avec moins de 20 000 $, comme elle l'a écrit et répété aux médias, et devenue millionnaire avant ses 30 ans. L'histoire était séduisante, mais était-elle véridique? Une douzaine de témoignages recueillis par la presse démontrent le contraire. Ariane Leduc, qui a racheté en avril 2017 l'Activatrice, l'entreprise de coaching d'affaires de la pharmacienne, est tombée des nues en ouvrant ses livres. Selon les états financiers consultés, l'entreprise avait enregistré une perte nette de 52 196 $ en 2015, un an après sa création. J'ai compris que j'avais acheté une coquille vide, bourrée de dettes, de soldes de crédit impayés et de clients furieux d'avoir déboursé 5 000 $ pour des services qu'ils n'avaient pas obtenus, déplore l'entrepreneur. Une femme très convaincante et très convaincue. J'écris ce livre pour les jeunes femmes talentueuses qui veulent un modèle de réussite autre que des hommes d'un certain âge, affirme Eliane Gamache-Latourelle dans son livre. Un argument de vente qui lui a valu de se retrouver au micro de Paul Arcan, de Benoît Dutrisac et de Denis Lévesque et qui lui a ouvert la porte du monde lucratif des conférences d'affaires. La jeune millionnaire en a profité pour attirer l'attention d'une clientèle féminine jeune, inexpérimentée, mais enthousiaste et prête à débourser 5 000 $, le prix d'entrée pour un an de coaching à l'Activatrice. Quant à celle qui manquait de moyens, mais pas d'ambition, elle pouvait toujours s'inscrire au programme EDR, Entrer et devenir riche, offert par la femme d'affaires au prix de 150 $ pour la journée. Ariane Leduc et son conjoint Maxime Lachapelle, deux jeunes entrepreneurs dans la trentaine, ont découvert la pharmacienne à l'émission de Denis Lévesque. Charmés par cette jeune femme pleine d'aplomb, ils l'ont contactée par Facebook et ont payé 350 $ pour la rencontrer pendant une heure. Elle leur a demandé d'ouvrir leur livre, on a tout déballé. La valeur de nos REER, nos placements, nos économies. Elle disait que c'était pour faire notre bilan financier, mais on soupçonne que c'était aussi pour voir l'état de nos liquidités, affirme Ariane Leduc. La première rencontre a été suivie d'une consultation de 500 $ pour 3 heures. Eliane nous a assuré que ce montant serait déduit si on prenait un coaching annuel avec elle. Le coaching coûtait 5 000 $. On était flattés qu'elle nous l'offre. On avait une confiance aveugle en elle et on était convaincus qu'elle allait nous aider à faire notre premier million. Les premières rencontres étaient pertinentes, mais plus le temps passait, moins c'était le cas. C'était décevant vu l'argent qu'on avait payé, mais on n'osait pas se plaindre de peur qu'elle ne se fâche, avoue l'entrepreneur. La clientèle de la jeune millionnaire était constituée entre autres de jeunes femmes en période de transition et souvent vulnérables. Selon 7 d'entre elles, la pharmacienne jouait sur leurs faiblesses, leur répétant qu'elles étaient capables, mais se fâchant si elles ne suivaient pas ses conseils. Pendant que la pharmacienne conseillait ses jeunes clientes pour les aider à lancer leur entreprise, elle faisait aussi pression sur celles pardon. Elle faisait aussi pression sur elles pour qu'elles investissent dans ces projets à elles, soutiennent-elle. Eliane parle bien. Elle trouve toujours les bons mots pour te convaincre et, comme elle s'adresse à des gens qui veulent vraiment réussir, elle arrive à ses fins surtout quand elle manque de fonds et veut te convaincre d'investir à sa place. Amélie Fortin, fille d'un riche propriétaire d'une usine de congélation de bleuets à Chicoutimi, qui disait cela. Sur les conseils de la pharmacienne, Amélie Fortin a déménagé à Montréal et payé 5 000 pour devenir une activée. Puis la pharmacienne l'a convaincue d'investir son temps et son argent dans le Chac Santé, un bar à suppléments ouvert au 10-30 par Joey Scarpellino, l'ex-mari et ex-associé de la pharmacienne. Madame Fortin y a remplacé à titre de gérante et d'associée l'entraîneur Cohen Ostry, chassé de son poste par Eliane Gamache-Latourelle, selon un recours déposé au Palais de justice de Montréal. Stress, perte financière, chantage émotif, j'étais rendue que ça me stressait rien que de recevoir un texto d'Eliane. Plus le temps passait, plus je me rendais compte de sa mauvaise influence sur moi, affirme Amélie Fortin, qui depuis est retournée vivre au Saguenay. Elle y a lancé sa marque de produits de beauté à base de fruits, tout en demeurant copropriétaire avec Joey Scarpellino du seul Chac Santé existant, celui de Chicoutimi. Eliane est une femme très convaincante et très convaincue. Elle donne l'apparence d'être organisée et d'avoir un plan défini. Elle aime se faire passer pour une sauveuse, mais en réalité, elle n'est pas là où elle prétend être. Son grand talent, c'est de repérer des gens qui traversent des périodes difficiles et d'exploiter leur vulnérabilité, affirme une ex-cliente qui tient à rester anonyme en raison d'une entente de confidentialité. Elle se félicite aujourd'hui de ne pas avoir fourni les 20 000 que lui demandait la jeune millionnaire pour les investir dans un système de bracelets inspiré du principe du time-sharing. Être propriétaire du dit bracelet donnait accès, plusieurs fois par année, à une formule tout inclus dans un complexe hôtelier de luxe en République dominicaine. La nutritionniste Anne-Josie Roy a investi 13 000 dans le bracelet du complexe hôtelier après que la pharmacienne lui a fait miroiter que sa revente, le bracelet, vaudrait au bas mot 100 000 Lorsque le projet est tombé à l'eau, la nutritionniste n'a réussi à se faire rembourser que la moitié de la somme. « J'ai beaucoup évolué cette année-là », ironise-t-elle. Marie-Pierre Brien-Damos a perdu 17 000 dans l'aventure du bracelet hôtelier. À l'époque, elle avait 22 ans et rêvait de se lancer dans l'événementiel. Elle a suivi les formations d'Eliane Gamache-Latourelle pendant un an. Au début, ça m'a aidé à voir où je voulais m'en aller, mais vers la fin, je sentais énormément de pression de sa part pour que j'investisse dans son système de bracelets que j'ai payé avec ma carte de crédit et que j'ai mis des années à en rembourser. Entre-temps, la pharmacienne lui a demandé d'organiser l'ouverture du Chac Santé du 10-30 sous prétexte que ça l'aiderait à se faire un nom dans l'organisation d'événements. La jeune femme était prête à travailler gratuitement. Elle ignorait qu'en plus, elle serait obligée de payer le champagne et le tapis rouge pour la centaine d'invités. L'auteur et conférencière Marie-Ève Lamontagne n'a subi aucune perte financière, mais admet qu'elle a failli perdre ce qui lui restait d'estime de soi au contact d'Eliane Gamache-Latourelle. En plein questionnement existentiel à la suite d'une dépression, Marie-Ève Lamontagne a offert ses services à la pharmacienne. Elle lui a organisé des dîners-conférences à 150 $ par personne au Ritz, au Toqué ou dans des restos du 10-30. Elle me payait le jour de l'événement et me donnait 40% des recettes de la porte, un montant honnête, mais qui ne couvrait pas les 10-20 heures semaine pendant 8 mois que j'ai mis à appeler tout le monde, à trouver des salles et à faire des réservations jusqu'en Abitibi. Maude André Damour a eu moins de chance. Au bout de 6 mois de coaching, elle a été vertement rappelée à l'ordre. « Moi, je ne sers à rien si tu ne changes pas », lui aurait reproché Eliane Gamache-Latourelle. Ébranlée par une critique qui s'ajoutait aux autres servies régulièrement par sa mentor, la mère de 2 jeunes enfants a décidé de passer aux actes. « J'ai vendu ma maison, quitté mon emploi et loadé mes cartes de crédit, moi qui avais toujours payé mes cartes de crédit religieusement. » C'était ma grande fierté, mais Eliane disait que pour réussir en affaires, il fallait tout payer à crédit. J'ai fait l'erreur de l'écouter. À ce chapitre, Eliane Gamache-Latourelle pratiquait ce qu'elle prêchait. Selon Ariane Leduc, qui a eu accès à ses livres en rachetant l'Activatrice, la jeune millionnaire ne possédait rien et payait tout à crédit. Sa BMW X5 à 1 684 $ par mois, son penthouse dans le Vieux-Montréal au loyer locatif mensuel de 7 000 $ et s'est viré dans les restos chics. Eliane nous répétait souvent « Arrêtez de vous priver. Vivez à crédit. Vivez au-dessus de vos moyens. De toute façon, une faillite, c'est rien », soutient Ariane Leduc. Marie-Ève Lamontagne corrobore. Daniel Hébert et Sophie Bonaventure sont deux anciennes associées de la pharmacienne. Geneviève Duperron, elle, a été sa patronne alors qu'Éliane Gamache-Latourelle était aux études. Les trois affirment que la seule façon de devenir millionnaire avec une pharmacie, c'est de la vendre des années après l'avoir payée et rentabilisée. Selon elle, Éliane Gamache-Latourelle, qui a été copropriétaire de 5 pharmacies entre 2011 et 2016, n'a pas pu les rentabiliser en si peu de temps. Alors, c'est un très, très long article et je vous lis un dernier passage. La presse a sollicité une entrevue avec Éliane Gamache-Latourelle pour la première fois au mois de novembre. Une rencontre organisée chez son avocat André Doré a été annulée la journée même. Maître Doré nous a informé que sa cliente souffrait d'ennuis de santé et qu'elle n'avait pas l'énergie pour répondre à nos questions, ce qui ne l'a pas empêché de donner 2 conférences, une à Laval le 18 novembre et une à la tour du Stade olympique lors de l'événement Next Level le 30 novembre. La presse a relancé Mme Gamache-Latourelle en décembre, puis au retour des fêtes, toujours sans succès. Autour du 10 janvier, la pharmacienne a affiché sur son compte Instagram des photos géolocalisées au Panama. Les photos ont été retirées depuis. Le 16 janvier, son avocat a demandé à la presse d'envoyer les questions par écrit afin que nous puissions vous répondre par écrit et vous rencontrer par la suite, le cas échéant. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Soyez prudents si vous sortez. Mettez vos crampons comme Jean-Sébastien. Merci Jean-Sébastien. La liberté à la mise en onde et au choix musical. Dans un petit moment, si vous nous écoutez en direct, c'est l'émission Les Paractualités.